Jean Faniel, bonjour.
Bonjour.
En pleine tourmente depuis la venue du maire de Téhéran à Bruxelles, Adjalabib Habib s'exprime aujourd'hui devant le Parlement, mais elle n'est pas seule. On attend également le Premier ministre Alexander De Croo devant les députés. Selon vous, Jean Faniel, politologue et directeur général du CRISP, sa démission est devenue inévitable?
Non, ce n'est pas certain. C'est un dossier à rebondissement. On ne s'attendait pas au début de la semaine dernière à ce que Pascal Smith, le secrétaire d'État bruxellois, présente sa démission. À la fin de la semaine, ça devenait une éventualité et durant le week-end, ça s'est confirmé. Et donc, on a eu à partir de là l'impression que la chute d'Adjalabib était peut-être un peu inévitable. Et puis, en ce début de semaine, on a eu de nouveaux éléments qui sont arrivés dans le dossier et notamment on a appris que le cabinet du Premier ministre, Alexander De Croo, avait été informé, avait été consulté par la ministre des Affaires étrangères. Et dès lors, on ne sait plus très bien où on en est. Est-ce qu'il s'agit d'une manœuvre, en quelque sorte, pour sauver Adjalabib? Mais si c'est le cas, et si la ficelle apparaît trop grosse, alors ça pourrait mettre en danger le Premier ministre lui-même, voire la coalition dans son ensemble, par ricochet. Ou bien est-ce que c'est une défense tout à fait solide et crédible qui permettra justement d'exonérer Adjalabib de ses responsabilités? Enfin, on en vient même à se demander aujourd'hui si Pascal Smet n'a pas démissionné, n'a pas été contraint à la démission un peu trop rapidement, ce qu'il pourrait évidemment amèrement regretter.
Justement, vous en avez parlé, le cabinet De Croo a reconnu avoir été au courant de ces visas accordés. Cela enlève un peu de pression sur les épaules d'Adjalabib?
Je crois que c'est à double tranchant. Soit, au contraire, ça va renforcer l'idée qu'il y a vraiment eu quelque chose qui n'était pas net ou pas adéquat dans la réaction des affaires étrangères, voire que les affaires étrangères ou la ministre elle-même ont essayé d'ouvrir un parapluie en se tournant vers le cabinet du Premier ministre, vers le Premier ministre lui-même. Soit au contraire, effectivement, ça pourra servir de caution, de paratonnerre, si cela apparaît en tout cas justifié. Et bien entendu aussi, on peut se dire que étendre en quelque sorte par extension la responsabilité vers le Premier ministre et son cabinet pourrait faire retomber la pression parce que certains partis au sein même de la coalition seraient alors moins enclins à essayer d'obtenir la tête de Adjalabib. On pense évidemment en particulier aux socialistes flamands de Voreuil qui ont déjà perdu une figure bruxelloise importante dans la bataille, en l'occurrence Pascal Smet.
Vous avez également évoqué la possible démission du Premier ministre Alexander De Croo. On pourrait vraiment en arriver jusque-là?
Mais disons qu'on se souviendra qu'à la fin de l'année dernière, il y a eu un affrontement, un bras de fer qui là était interne à l'OpenVLD, les libéraux flamands, le parti d'Alexander De Croo. Si vous vous souvenez, Eva de Bleecker, qui était secrétaire d'État au budget, a été accusée, la NVA a pointé qu'elle avait transmis des documents à la Commission européenne qui n'étaient pas exactement ce que la Chambre des représentants avait avalisé. Et à partir de là, Eva de Bleecker est tombé, mais il est apparu aussi, parce que la presse flamande l'a révélé, qu'il y avait eu des contacts entre elle et le cabinet d'Alexander De Croo. Là, on s'est demandé si Alexander De Croo lui-même n'allait pas faire les frais de cette affaire. Et finalement, c'est Eva de Bleecker qui est tombée, qui a dû présenter sa démission. Et on a pu s'apercevoir que le vent du boulet était passé relativement près des oreilles d'Alexander De Croo, mais sans le faire tomber. Ici, on peut se demander si ce n'est pas un peu le même scénario qui se reproduit, finalement, avec des contacts entre une ministre, cette fois-ci qui n'est plus de son parti politique, mais qui est de sa famille politique, puisque Adjalabib est une ministre du MR, Parti libéral francophone, et on peut se demander ici si Alexander De Croo ne va pas à nouveau un peu vaciller, ou bien au contraire, est-ce que la force d'Alexander De Croo va en quelque sorte permettre de protéger sa ministre des Affaires étrangères, Adja Labib.
Depuis le début de cette affaire, Adja Labib accuse la ville de Bruxelles. Selon vous, elle n'aurait pas gagné dès le début à assumer ses actes?
Et il est clair qu'il y a encore un certain nombre de zones d'ombre dans cette affaire, sur le timing, sur l'enchevêtrement des responsabilités, sur l'enchevêtrement des dossiers, parce qu'évidemment tout le monde a en tête la libération d'Olivier Vindecastel, intervenue à la fin du mois de mai, et de trois autres prisonniers européens qui étaient détenus en Iran quelques jours plus tard. Et donc il y a là aussi, sur l'enchaînement des faits, des questions qui se posent. Est-ce que ce dossier de libération de un et puis trois autres otages a pesé dans le choix? Est-ce qu'il est intervenu avant? Est-ce qu'il est intervenu après? Quand est-ce qu'il a fallu délivrer les visas à ces personnalités iraniennes et aussi quelques personnalités russes, ce qui a poussé Pascal Smet à la démission? Donc là, vraiment, dans le déroulement des choses, dans l'enchevêtrement des dossiers et dans le timing, il reste des zones d'ombre que, normalement, Adja Labib et peut-être aussi Alexandre De Croo devraient pouvoir, devraient vraiment éclaircir dans la journée de ce mercredi.
Adja Labib est une pièce majeure pour le MR à Bruxelles en vue de 2024. Son parti en prend un coup avec cette histoire?
Tout dépendra de la manière dont elle s'en tire. Si elle est finalement contrainte à la démission, ce sera un rude coup pour le parti qui essayait de se repositionner à Bruxelles, notamment auprès de populations vers lesquelles le MR n'a pas toujours donné l'impression d'être bien représenté. Je pense évidemment aux communautés issues de l'immigration, en particulier nord-africaine. Si par contre elle s'en sort sans devoir démissionner, ça pourrait être plus positif. Il faut bien voir aussi que le choix de faire nommer par le roi Adja Labib comme ministre, c'est-à-dire d'aller chercher quelqu'un qui n'était pas en politique, qui n'était même pas encore membre du MR, elle ne l'est devenue que début octobre, alors qu'elle a été nommée à ses fonctions ministérielles à la mi-juillet, est un choix que Georges-Louis Boucher, le président du MR, a posé de manière assez personnelle. Et donc je dirais que selon que cela passe ou que cela casse pour Adja Labib, on peut se dire que cela passera ou que cela cassera aussi pour Georges-Louis Boucher. Donc là, il y a vraiment un enjeu à la fois pour le parti à Bruxelles, pour Adja Labib, évidemment elle-même aussi, mais également pour le président du parti, Georges-Louis Boucher.
Après l'affaire Eva de Blecker, maintenant l'affaire Adja Labib, au final c'est la NVA qui sort vainqueur.
La NVA a déjà obtenu deux scalps, deux trophées en quelque sorte, puisqu'il y a eu d'abord la démission d'Eva de Blecker à la fin de l'année 2022, secrétaire d'État au budget, OpenVLD, et puis il y a eu la démission de Sarah Schlitz, secrétaire d'État à l'égalité des genres, notamment écolo, qui, elle, a dû présenter sa démission à la fin du mois d'avril. Donc effectivement, au niveau de la NVA, on se réjouit visiblement de mettre en difficulté une nouvelle fois la coalition, voire de peut-être arriver à faire tomber une troisième personnalité membre du gouvernement. Et pourquoi la NVA? Parce que, à nouveau, dans ce cas-ci, c'est la NVA qui a amené un certain nombre d'informations qui mettent aujourd'hui en difficulté la ministre des Affaires étrangères, puisque c'est du côté de la NVA qu'on a repéré l'arrivée en Belgique du maire de Téhéran et qu'on a commencé à tirer un peu sur le fil, sur la pelote de laine de cette embrouillamini, en quelque sorte, de la question de son octroi, de l'octroi à cette personne d'un visa pour rentrer en Belgique.
Jean Fagnel, je rappelle que vous êtes politologue, directeur général du CRISP. Merci d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka.
À bientôt.